Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce numéro de Jeudredi, votre rendez-vous hebdomadaire sur Agone Radio. Bien sûr, au sommaire, ce soir, la soirée Fashion Diversity sera mise sur pied le 16 mars prochain par l'École de commerce et de culture générale de Monthey, en collaboration et au profit de l'organisation humanitaire Morija. Nous recevrons Lila Niklaus, Enzo Fay et Bruna Langel qui nous en diront un peu plus sur ce projet original qui réunit créativité, migration et diversité. Yasmina Cordoni ensuite nous présentera deux nouveaux ouvrages à l'enseigne de Miroir de Page. Et puis nous recevrons Evelyne Sayen, vice-présidente de la municipalité de Saint-Maurice, en charge de l'enseignement de la jeunesse et des jumelages. Et Laurent Husson, le chef du service formation et jeunesse et directeur des écoles primaires. Ça fait beaucoup de titres tout ça. Avec eux, nous parlerons de jumelage avec Saint-Maurice-Val-de-Marne et puis des sorties à ski des écoles à venir très prochainement. Nous nous rendrons enfin dans l'Est parisien, et oui, vous avez bien entendu, pour découvrir comment se prépare ce jumelage du côté français. Nous serons en duplex téléphonique Vive la technologie avec Philippe Bourdageau et Cédric Damien, tous deux maires adjoints de la ville de Saint-Maurice-Val-de-Marne. Nous sommes le jeudi 16 février 2023. Nous sommes ensemble pour une heure sur Agone Radio.
Jeudredi, Fabien Lafarge, Victor Glacet, 17h30, 18h30, en direct sur Agone Radio.
Nous accueillons donc Lila et Enzo de l'École de commerce et de culture générale de Monthey et Bruna Langel de l'association Morija. Dans le cadre de ces cours, le CCG Monthey a décidé de mettre en avant la thématique migration et diversité, défi relevé par 5 élèves. Ma première question pour nos deux étudiants. Vous êtes en quelle année et ce projet est dans le cadre de quel cours ?
Alors, nous sommes en deuxième année de l'ECG, donc l'École de culture générale, en filière sociale.
C'est dans ce cadre-là que vous faites ce projet ?
Oui, exactement.
Pourquoi une soirée fashion ? Comment est venue cette idée ? Est-ce qu'il y a eu d'autres idées ? Est-ce que c'est l'aboutissement d'une longue réflexion ?
Alors, du coup, notre but, c'était donc de trouver une idée de projet de soirée ou une journée entière basée sur le thème donc migration et diversité qui nous a été donné par notre prof. Et moi, j'en ai parlé à mon entourage concernant ce projet. Mon entourage, il m'a dit, fais un défilé de mode. Je me suis dit, c'est une super idée. Donc, on s'est lancé là-dedans et ça a porté ses fruits, on va dire.
Ce projet, il est donc noté ?
Oui, exactement. À la fin de l'année, donc, il est noté sur la préparation, l'organisation et sur le jour J final, on sera noté sur tout le déroulement du projet.
Quelles ont été les étapes de la conception de ce projet ? Peut-être Enzo, je ne sais pas si...
Déjà, nous, on est coaché par notre professeur et on a dû commencer par trouver des idées. Donc, on est 5 dans le groupe, donc on a chacun apporté une idée et les meilleurs ont été un peu retenus, on va dire. Ensuite, ça a été donc validé auprès de notre professeur. Et puis, on a commencé donc à tout organiser. Donc, il y a plusieurs sous-thèmes, on va dire, hein, par rapport aux finances, à la communication, et voilà.
Là, la migration, c'était quelque chose d'important ? C'était quelque chose, un thématique qui vous parlait ou imposé ?
Cette thématique, elle a été imposée par notre école. Donc, du coup, c'est la thématique de notre année. Donc, on a eu le droit à un visionnage d'un film sur cette thématique. Et donc, du coup, cette thématique, elle nous a été donnée en thème pour notre cours projet social.
Il y a ce partenariat avec Morija. Comment vous êtes tombé sur Morija ?
Déjà, on a regardé un peu les associations qui étaient en lien avec justement la migration et la diversité dans la région. Et puis, on a regardé aussi les valeurs et les missions de ces différentes associations. Et puis, la Morija, ça nous a semblé le choix idéal, on va dire.
Bruna, donc...
Bonjour.
Bonjour. Que fait Morija ? Quelles sont ses activités ?
Morija est une association humanitaire qui œuvre en faveur des plus démunis. L'objectif est vraiment d'améliorer leur vie, leurs conditions. On est essentiellement actif donc en Afrique subsaharienne dans des secteurs variés qui sont la santé, l'éducation, l'eau, assainissement, hygiène, le développement rural, l'aide humanitaire et on a aussi été très séduit par ce projet, mais nous avons des années de partenariat avec les CCG déjà, avec...
vous n'étiez pas inconnue, donc.
Non, on est déjà introduit depuis maintenant plusieurs années, surtout avec les élèves de troisième année qui font leur projet social de troisième année de fin d'études.
Bon, vous êtes plutôt actif en Afrique.
En Afrique subsaharienne, donc c'est le Burkina Faso, le Togo, le Tchad, le Cameroun.
Dans des projets donc, humanitaires, surtout axés sur l'eau.
Oui, c'est dans les secteurs que je viens de vous citer, évidemment que les enfants sont au centre de toutes nos actions. Donc, on axe toutes nos actions qui sont des actions transversales. Donc, l'une ne pourrait pas exister sans l'autre. Et les écoles, c'est pour nous vraiment le monde de demain, aussi bien en Afrique qu'ici. Donc, la jeunesse, pour nous, c'est une cible très intéressante à atteindre puisqu'elles peuvent vraiment changer quelque chose pour ces populations qui sont souffrantes et dans une certaine fragilité.
Vous aviez déjà travaillé avec des écoles avant ce projet. Bon, on avait déjà dit, vous avez dit avant que vous aviez une longue collaboration avec le CCG.
Alors j'ai déjà travaillé avec des écoles dans la région lausannoise. Morija a déjà travaillé avec plusieurs écoles et notamment avec nos actions Chocolat Solidaire. Chocolat Solidaire, c'est une école, se mobilise pour venir en aide à une autre école au Burkina Faso en créant une structure de A à Z. On peut imaginer donc, les cantines scolaires, les panneaux solaires, des latrines, puisque l'hygiène n'est pas vraiment...
Des services basiques, en fait.
Voilà, exactement. En fait, pour faire en sorte qu'ils aillent vraiment des conditions d'apprentissage qui soient plus appropriées, plus dignes.
Donc, il y a ce projet qui vient de soirée Fashion, Diversity. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ?
Surtout la créativité, l'innovation. Faire passer un message par cette créativité, justement, on a tendance un peu à l'oublier parfois. Je sais que c'est une attitude individuelle, mais quelque part, on ne l'utilise pas assez pour faire passer des messages et un message important, puisque là, c'est une cause noble. Et j'ai beaucoup aimé aussi que ça soit quelque chose de différent, qui nous permette aussi de nous placer sous une autre forme, je dirais, que... Voilà, en récoltant des fonds pour nous, que les manières classiques que l'on peut imaginer.
Quelles sont vos attentes ? Donc, il y a l'aspect financier, vous avez dit, après peut-être une attente d'être plus connue, sensibilisation dans les écoles aussi.
Alors effectivement, la sensibilisation est très importante. C'est une recherche de notoriété aussi, de visibilité, récolte de fonds bien sûr, et surtout se placer aussi auprès d'un public cible qui est à proximité et qui parfois ne nous connaît pas encore. Donc c'est un événement local et c'est vrai qu'on essaie d'avancer en escargot dans notre notoriété.
Enzo, concrètement, comment va se dérouler cette journée ?
Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle sera séparée en deux parties, on va dire. La première partie, ce sera lors de l'après-midi du 16 mars et ça concernera surtout les élèves de première année de notre école, donc de l'école de culture générale.
Vous avez recruté des élèves pour bosser pour vous ?
Alors non, c'est pas exactement ça. On va dire qu'ils sont un peu obligés de participer à ce projet. C'est-à-dire que le jeudi après-midi, ils n'auront pas cours, mais par contre, ils seront avec nous. Et donc, ils cuisineront avec des personnes issues de la migration pour... préparer en fait un apéritif dînatoire basé sur les spécialités culinaires des pays de ces personnes issues de la migration.
Donc il n'y aura pas ni viande séchée, ni fromage, ça sera vraiment des menus exotiques, entre guillemets.
Alors évidemment c'est ce qu'on espère, maintenant on ne sait pas exactement encore ce qui sera cuisiné parce qu'on est encore en contact avec les personnes qui seront là le jour J pour cuisiner avec les élèves et ils vont nous donner très prochainement ce qu'ils feront, ce qu'ils prépareront finalement.
Ok, puis la deuxième partie ?
Et du coup, la deuxième partie, donc, ce sera la soirée du 16 mars. Et là, ça concernera nos invités, donc ceux qui se seront inscrits à ce projet. Et donc, on les accueillera à 18h. Et puis ensuite, aux alentours de 18h30, 18h45, donc, l'activité commencera, le défilé de mode. Et puis avec l'apéritif dînatoire et quelques discours, une présentation notamment de la Morija, justement.
Donc pour bien résumer les choses, donc la soirée, il y a ce défilé de mode. Mm-hmm. Et puis il y aura donc cet apéritif dînatoire préparé par les premières années qui sera donc distribué le soir, c'est ça ?
C'est exactement ça.
Vous parlez de défilé de mode, c'est un sacré défi là. Comment on fait pour monter un défilé de mode ? Surtout avec des migrants, avec des cultures peut-être différentes, ça se passe comment ?
Alors... Bah, déjà, il faut bien séparer la cuisine avec les personnes migrantes et puis les tenues pour le défilé de mode. Donc nous, pour les tenues, pour la création des tenues, donc on a d'abord regardé quelles étaient les écoles de couture de la région. Donc on en a fait une liste, on en a contacté un maximum par téléphone ou par mail. Et puis ensuite, donc il y en a très vite deux qui ont été intéressés et qui nous ont répondu. L'école Canva, donc c'est une école de couture située à Lausanne, et l'école de couture de Sierre. Donc on est parti à leur rencontre pour leur expliquer notre projet. Et...
Ils ont été emballés par le projet ?
Exactement, ils ont été emballés par le projet complètement. Et puis,
projet, pour bien comprendre, le projet, c'est de créer des tenues des personnes migrantes, c'est ça ?
Alors, c'est de créer...
Sans dévoiler peut-être les secrets de la soirée, mais de la haute couture ou si c'est vraiment du traditionnel ?
Alors non, donc les élèves de ces écoles de couture, elles sont actuellement en train de créer des tenues qui sont... Exactement, qui se base sur des tenues traditionnelles, justement, de pays d'Afrique ou d'Asie. Ou...
Des personnes migrantes.
Exactement. Ouais.
Donc aujourd'hui, vous n'avez aucune idée des tenues qui vont arriver.
Alors, nous, de base, on avait une liste, mais du coup, ils ont un petit peu rajouté des pays à cette liste. Et puis, il y a même certains pays qui ne seront pas représentés, du coup.
Donc, qui va faire le défilé et qui va porter ces habits ?
Alors ça, pareil, on a dû faire une recherche de bénévoles qui accepteraient d'être des mannequins lors de cette soirée.
Les troisièmes années de CCG ?
Alors oui, il y en a certains de troisièmes
années. Les premières sont réquisitionnées, les troisièmes aussi.
Exactement. Non, il y a plusieurs élèves de l'école de deuxième année, troisième année et peut-être même première année. Et puis il y a aussi, là dernièrement, on a eu certains qui participent à Miss et Mister Suisse.
Okay.
Qui donc vont prendre part à notre projet pour venir défiler le soir.
Donc c'est le 16 mars, dans un mois ?
Oui,
c'est ça. C'est sur inscription ?
Alors oui.
Comment ça se passe ?
Alors nous, on a donc créé...
Puisque maintenant, on a vraiment envie de venir, puisqu'on a le menu, comment on fait ?
Bien sûr, donc on a créé des affiches. Donc si vous vous baladez dans la rue et que vous tombez sur l'une de nos affiches, donc elles sont bleues avec écrit Fashion Diversity, il y a un QR code, il suffit de le scanner. Et puis, ça vous enverra directement sur un formulaire en ligne pour vous inscrire. Et puis, si...
On mettra aussi le lien à Agone Radio.
Oui, aussi. Il sera également sur Agone Radio si vous ne voulez pas sortir de chez vous. Et puis, il y a aussi sur notre compte, sur le compte Instagram de notre école, dans les prochains jours, pareil, il y aura...
Le nombre de places est limité, il faut s'inscrire tout de suite. Est-ce que c'est limité ?
Oui, alors ce sera limité à 120 places, donc...
Donc il faut se dépêcher.
À la maison des jeunes.
Exactement, à la maison des jeunes, à la salle Le Figuier à Monté.
18h30.
À 18h.
18h, ok.
Ouverture des portes à 18h.
Pour l'apéritif dînatoire, ouais.
Oui.
Ok.
Exact.
Peut-être un retour sur Morija et ses activités. Il y a eu cette période du Covid. Hein. Comment vous avez fait pour passer cette période difficile ? Comment gérer des projets en Afrique dans une période de Covid ?
C'est pas facile, mais en fait, on a dû... On a dû, de notre part, annuler des événements, être plus créatifs et agiles dans nos prises de décision, apprendre à travailler, télétravailler davantage et puis effectivement développer davantage aussi la communication digitale. Nous n'avons par contre pas eu de baisse de dons grâce à nos donateurs fidèles. Donc ça, c'est pour la Suisse. Si on devait se déplacer en Afrique, le problème en Afrique, il y en a beaucoup d'autres. Il n'y a pas que le Covid, il y a la fièvre typhoïde et la malaria. Donc effectivement, ce n'est pas le principal problème. La situation géopolitique, l'intégrisme religieux, le mouvement des populations avec 2 millions de déplacés internes actuellement qui ont dû fuir leur logement à cause d'attaques terroristes. Donc nous travaillons particulièrement pour ces peuples qui sont par la plupart oubliés dans le monde et on essaye de s'occuper de ces populations qui ont vraiment un grand besoin de soutien.
Donc aujourd'hui, vous avez repris des activités normales. Quels sont vos prochains projets ?
Alors, nos prochains projets, on en a plusieurs, mais qui me semble important de vous parler de ça aujourd'hui, c'est les écoles arc-en-ciel. les écoles arc-en-ciel, c'est des lieux d'apprentissage avec une structure qui est favorable à l'apprentissage dans les écoles pour améliorer les compétences des enfants de base. Et aussi faire un lieu paisible où on peut mettre en œuvre toutes nos activités en même temps. La santé, donc des contrôles de santé, une cantine pour pouvoir manger, une latrine pour pouvoir faire ses besoins. Donc effectivement, ces écoles arc-en-ciel, c'est vraiment un projet, je vous en dirai plus une autre fois.
Avec plaisir, peut-être qu'on peut creuser ce sujet très intéressant, simplement d'avoir accès aux services tels eau, toilettes, ce genre de choses. Ouais. Ma dernière question peut-être pour Lila, vous connaissiez Morija avant ?
Oui, j'avais déjà entendu parler, mais je ne savais pas tout ce que je sais maintenant. Donc, je ne savais pas sur quelle thématique il travaillait. Mais du coup, j'ai appris à connaître l'association de Madame Langelle et je suis très intéressée maintenant.
Donc, vous pensez que
c'est
genre...
C'est pas la mienne.
Oui, mais...
Qu'elle représente.
Ouais. Ouais, qu'elle représente plutôt.
Vous pensez donc que ce genre de projet, en fait, où vous partez, vous devez faire un projet social, vous arrivez sur Morija, ça vous fait, en fait, réfléchir à d'autres aspects et puis vous faire connaître un monde un petit peu différent.
Oui, exactement. Ça nous apprend beaucoup de choses, je trouve, et je trouve ça intéressant de connaître plus de choses, tout simplement.
Alors, merci beaucoup. Et puis, rendez-vous donc le 16 mars à Monté pour ce défilé de mode et puis cette dégustation apéritif dînatoire de nourriture traditionnelle. Alors, merci beaucoup d'être venu. Et puis, on réinvitera l'association
Morija.
Avec
plaisir.
Merci à vous.
Merci beaucoup à vous tous. Merci.
Elle nous arrive de la librairie Saint-Augustin avec deux ouvrages, Sous le bras, c'est Yasmina Cordonnier. Bonsoir.
Bonsoir.
Premier ouvrage du jour, Staline a bu la mer. C'est un livre de Fabien Vincent qui est paru aux éditions Anne Carrière. Yasmina, nous nous rendons, comme le titre le laisse suggérer, du côté de la Russie.
Oui, Avant-cour, balaye Moscou et s'insinue dans les appartements privés de Joseph Staline. Ce courant iodé s'empare de son esprit. Staline est persuadé que l'on veut l'assassiner. Les plus grands spécialistes se penchent sur le problème et arrivent à la conclusion que ce vent, le baiser des steppes, se forme au-dessus de la mer d'Aral.
Et là, on a affaire à une décision propre à pas mal de dictateurs, souvent très démesurés. Devant l'assistance médusée, Staline décrète l'assèchement de cette étendue d'eau qui a un comportement anti-soviétique.
Et le chantier est confié à Léonid Borisov. Enfant des rues, il a été élevé dans les institutions du parti et vient tout juste d'obtenir son diplôme d'ingénieur. Pétri d'admiration pour Staline, il souhaite vouer sa vie à la grandeur du régime. Rien ne le détournera de sa mission. Mais une fois sur place, face à cette mer et à la population locale, le doute l'assaille. D'autant plus que sa route croise celle d'Elmira, jeune ouzbek, intrépide, un peu trop d'ailleurs aux yeux des femmes de son clan. Est-ce que tout est seulement matière et doit se plier à la volonté de l'homme, comme l'enseigne le parti, ou la vie recèle une part de mystère ?
Le mystère, justement, on y arrive. C'est une notion qui est bien présente sur ces terres lointaines.
Ces territoires sont situés aux portes de l'Orient, sur le chemin de la route de la soie. La population nomade a dû se sédentariser et a espéré que son annexion à l'URSS, avec tous les progrès vantés, lui conférerait une vie plus facile. Sa principale ressource, elle la tire de la pêche, qui est ensuite acheminée dans tout le pays. Elle a su garder ses coutumes, notamment avec ses marchés aux épices enivrantes, aux étoffes chatoyantes, sa religion et ses divinités. Nabidjon, pêcheur le jour et chaman la nuit, voit arriver la catastrophe. Choc est inévitable et une lutte inégale s'organise.
Je commence à parler trop vite. Alors, il faut peut-être le préciser, hein, ce livre, Staline a bu la mer, c'est pas un livre historique, enfin du moins pas complètement. C'est un ouvrage où la fiction et la réalité se côtoient.
Oui, parce que dans les faits, dès 1918, avec l'arrivée des bolcheviks, l'eau qui alimente la mer d'Aral est détournée pour la culture du coton et du riz. Dans les années 60, donc bien après la mort de Staline, la culture du coton s'intensifie. La mer d'Aral perd 75% de sa superficie. Les eaux deviennent très salines, modifiant la faune et la flore. Les sols sont gorgés de pesticides et le fameux vent, le baiser des steppes, se charge de les diffuser loin à la ronde. Le taux de mortalité est l'un des plus élevés du monde. C'est une des catastrophes écologiques majeures du XXe siècle. Les pages sur Staline, ses proches et les rouages du fonctionnement politique sont d'une très grande férocité et montrent toute l'absurdité du régime et d'un homme qui se place au-dessus de tout. Le récit se fait plus poétique et mystique lorsqu'il est question de la nature, avec comme point d'orgue l'amour. L'amour qui, à défaut de sauver la mère d'Aral, sauvera nos deux jeunes protagonistes.
Ça tombe bien, on est au mois de février, hein, le mois de la Saint-Valentin. L'amour est donc présent aussi dans ce livre pour ajouter une touche de douceur. On va passer maintenant à Matrix de Lauren Groff. Alors attention, rien à voir avec le film. Hein. C'est un livre qui a été traduit de l'anglais par Karine Chichereau aux éditions de L'Olivier. On précise que Lauren Groff a suscité un très bon accueil de la critique et du public avec son troisième roman qui s'appelait Les Furies. Elle revient avec un ouvrage que vous qualifiez d'énorme coup de cœur et qui nous renvoie dans le temps, en l'an de grâce, 1158.
Nous nous retrouvons aux côtés de Marie de France, âgée de 17 ans, qui doit quitter à la mort de sa mère le domaine familial, car une bâtarde, même de sang royal, ne peut hériter des terres. Elle trouve donc refuge auprès de son demi-frère, roi d'Angleterre, et de sa femme Aliénor, qui n'a pas encore le titre d'Aquitaine. Marie lui vouera tout au long de sa vie un amour inconditionnel. Elles resteront en contact, traçant chacune leur chemin dans ce monde d'hommes. On ne sait pas trop quoi faire de cette jeune fille à l'allure dégingandée, dépassant de trois têtes toutes les femmes du royaume, dépourvue de grâce et de beauté, et ne connaissant pas les usages raffinés de la cour.
Et quel beau portrait. Aliénor prend une décision, elle l'envoie, nimbée du titre de prieur, dans une abbaye au fin fond du royaume, car fort heureusement, elle sait lire, écrire et puis elle parle plusieurs langues.
Et Marie est complètement désespérée et a l'impression de s'enterrer vivante. L'abbaye vit dans une très grande pauvreté. Les vivres manquent, la maladie sévit et le monastère se trouve dépourvu du moindre confort. Mais très vite, son tempérament frondeur prend le dessus. Prieur, on l'a nommée, prieur, elle sera. Elle prend en main le destin de ses sœurs, cultivant les champs, récupérant les loyers des fermiers non versés, créant un scriptorium, activité très lucrative, mais généralement réservée aux moines. Marie commence à être connue pour ses compétences et l'abbaye prospère. Nommée mère abbesse, elle crée, dans cette période de violence et de déliquescence, un havre de paix et de spiritualité, parfois à la limite de l'hérésie pour les femmes, car les hommes n'ont pas droit de citer sur ces terres.
Alors comme tout à l'heure, ce n'est pas un roman historique, on est dans la fiction. Marie de France, elle a existé, mais de sa vie, on ne sait quasiment rien.
En effet, le seul témoignage qui nous est resté est un écrit encore disponible, « Les Lais de Marie de France », encore étudié dans certaines classes du collège de Saint-Maurice, mais qui nous renseigne assez peu sur sa personne. Alors Matrix est un roman puissant qui réussit le tour de force de nous plonger dans l'atmosphère du Moyen-Âge tout en étant étonnamment moderne. On sent que l'autrice s'est documentée sur cette période. Elle a d'ailleurs effectué un séjour dans un couvent où elle a pu s'imprégner de la beauté de la vie monastique. Elle signe là le portrait d'une femme profondément attachante, portée par ses idéaux, féministe avant l'heure.
Merci Yasmine pour la présentation de ces deux ouvrages, deux livres à acquérir bien sûr sans attendre à la librairie Saint-Augustin. Et puis on se donne rendez-vous dans deux semaines.
Avec très grand plaisir Fabien.
Retrouvez cet ouvrage à la librairie Saint-Augustin à Saint-Maurice ou commandez-le en ligne sur saint-augustin.ch.
Saint-Maurice Tourisme vous présente l'agenda du week-end. Ce week-end, je fais Carna à Saint-Maurice. Jeudi dès 20h, soirée de pré-ouverture. Vendredi dès 20h également, ouverture officielle du 172e carnaval à Gonois. Samedi à 14h, carnaval des enfants et le soir, on fait light. Dimanche à 10h30, cortège à Lavey, puis à 14h30 dans la Grand Rue. Lundi dès 19h, Mystic Game et dès 21h30, remise des prix de décoration des canis. Et sinon, jeudi 16 février, la médiathèque vous accueille de 9h à 10h avec l'animation Né pour lire pour les tout-petits et leurs parents. Samedi 18 février à midi, repas communautaire avec déguisement à l'auberge de l'Armaillie de Mai. Suivez l'actualité des manifestations sur saint-maurice.ch/agenda. I'm going to
Radio 100% agonoise.
Nous allons maintenant parler d'un sujet qui ravivera certainement plein de belles images à celles et ceux qui nous écoutent. Accueillir son français en hiver, puis retourner le voir en été, avant de se rendre au bord de la mer, à Saint-Jean-de-Mont ou à Sainte-Marie-des-Moulineaux. Le premier voyage à Paris, la découverte, peut-être même d'Euro Disney, pardon, de Disneyland Paris, ça a changé de nom. On parle bien entendu du jumelage, on va parler de jumelage et de bien d'autres choses avec Evelyne Sayen, conseillère municipale. Et vice-présidente, bonjour Evelyne.
Bonjour.
Et puis on reçoit également Laurent Husson, chef de service, directeur des écoles. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Alors Evelyne, 2023, c'est une année un petit peu, enfin 2022, 2023, cette année scolaire, elle est un petit peu particulière. Il y a beaucoup de nouveautés, l'arrivée de Laurent Husson comme chef de service pour la jeunesse et directeur des écoles, le départ de Marie-Stella, que beaucoup de personnes ont côtoyé durant ces années de jumelage. Une page qui se tourne, on imagine que c'est une période pleine de nouveautés.
Beaucoup de nouveautés, une nouvelle organisation. Effectivement, Marie-Stella, après 32 ans de bons et loyaux services, a pris une retraite, bien méritée, et puis nouvelle mouture du jumelage avec une durée de séjour plus courte. On est très satisfait de voir le répondant autant du côté suisse que du côté français, avec 18 enfants français inscrits et 20 du côté suisse. C'est aussi un redémarrage après une pause Covid de 2 ans qui nous paraissait bien longue, et puis on est tout content de voir redémarrer un projet avec un nouveau fonctionnement aussi, et ça a l'air de se mettre très très bien en place actuellement.
C'est vrai qu'il y a eu ce Covid, hein, en 2 ans on peut rapidement perdre des habitudes, on peut rapidement perdre un rythme, peut-être même parfois un savoir-faire. On a eu peur à un moment donné pour ce jumelage avec ces 2 années de Covid, ces années creuses.
C'était un peu la crainte de dire, au moment où on relance les inscriptions l'automne dernier, comment ça va se passer, quel accueil on va avoir. Et puis, étonnamment, on a été agréablement surpris de voir ce répondant et cet intérêt. Et pourquoi pas cette nouvelle mouture un peu plus courte sur la durée, mais peut-être moins contraignante pour les familles, à donner un petit coup d'impulse, la petite impulse nécessaire à un redémarrage.
On va en parler après un petit peu du programme et du fonctionnement. Je vais poser une question à Laurent Husson qui est arrivé au mois d'août pour finalement créer un service qui n'existait pas, la jeunesse, et puis prendre les écoles. Il y a ce jumelage qui arrive avec l'organisatrice historique qui s'en va. Laurent, c'est comment on jongle avec tout ça quand on arrive? Ça doit faire pas mal de choses aussi. Hein.
Oui, ça fait beaucoup de choses, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Le sens du service, c'est d'avoir quelqu'un qui peut avoir la vision d'ensemble sur les affaires de jeunesse, on va dire, dans la commune. Et puis ça, c'est extrêmement motivant. Et puis, ma foi, c'est aussi des opportunités de pouvoir réfléchir des choses sous un autre angle et de mettre en place une vision peut-être un peu nouvelle, mais qui se base quand même essentiellement sur tout ce qui a été fait.
C'est vrai qu'à Saint-Maurice, le jumelage, tout le monde connaît, presque tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont fait leurs écoles primaires à Saint-Maurice sont partis ou ont eu l'occasion de partir avec cet échange qui se fait avec les élèves qui viennent ici et ensuite on va là-bas. Quel œil on a quand on arrive comme ça de l'extérieur sur ce jumelage qui a une très longue histoire, Laurent?
Bah, c'est une tradition extraordinaire, parce que c'est vrai que les enfants qui y sont allés en parlent, les parents en parlent. J'ai vu l'immense travail qui a été fait jusqu'à maintenant par Marie-Stella Gieron. Il y a beaucoup de choses qui roulent. Maintenant, c'est vrai que les conditions changent un petit peu. La société évolue aussi. Et puis, on doit peut-être se redéfinir et puis reprendre une direction tout en gardant l'essentiel de ce qu'est le jumelage, c'est-à-dire une rencontre entre des jeunes de deux villes.
Evelyne, nous vivons actuellement la période de carnaval, donc j'imagine que les Français ne vont pas arriver aujourd'hui, mais ils arrivent quand? Ils vont faire quoi?
Ils vont arriver juste après, nous aurons le temps de récupérer, d'enlever quasiment tous les confettis. Il en restera quelques-uns dans la grande rue pour leur donner l'envie de revenir peut-être l'an prochain en période de carnaval. Comme le séjour est réduit, ils vont arriver lors de leur deuxième semaine de vacances scolaires, et cette année, ça sera le 25 février, samedi 25 février, et ils repartiront le dimanche 5 mars, après 9 jours de découverte de neige, d'aquapark aussi dans le programme.
Et c'est surtout le ski.
C'est surtout le ski qui est mis en avant durant cette semaine de présence, vu qu'on a un grand spécialiste de ski en la personne de
Laurent. J'étais moniteur à l'époque, là, maintenant il y a une démarche un peu innovante.
Il y a une nouvelle approche.
Oui, une nouvelle approche au niveau des accompagnants de ski, où il faut faire des cours, etc.
Y a-t-il vraiment une nouvelle approche ? Non, pas du tout. On continue à se baser sur le bénévolat et la volonté de la population de Saint-Maurice de faire en sorte que ce jumelage, mais aussi les journées à ski fonctionnent. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne va pas acheter des prestations. C'est la communauté qui l'a fourni et ça c'est extraordinaire. Maintenant, c'est vrai aussi que la société change et les activités à ski restent des activités dites à risque pour lesquelles on prend un certain nombre de précautions pour garantir que chaque enfant ait une expérience magique et puis qu'il revienne en toute bonne santé. Donc effectivement, on a mis en place pour les moniteurs qui le souhaitaient, les moniteurs bénévoles qui le souhaitaient, une journée de formation continue pour faire un petit peu de chasse-neige, voir un petit peu de sécurité sur les pistes, et puis comment on peut conduire un groupe, puis aussi reconnaître le domaine skiable, puisqu'on va tous aller skier en Valais Centrale à Anzère.
Ah voilà, c'est important de les reconnaissances. C'est vrai, quand on était petit, moi je me souviens, on allait aux Portes du Soleil. Alors moi je venais de là-haut, on était dans le groupe d'efforts. On avait un adulte avec nous qui nous suivait ou qui était devant nous. Et puis c'était assez sommaire. Et c'était peut-être ça aussi l'idée de dire, il faut quand même s'assurer que les bénévoles, vous le dites, qui accompagnent les jeunes sont formés, savent ce qu'ils font et sont capables aussi d'accompagner d'avoir un vrai rôle d'accompagnant et de... Oui. Pas de prof, mais de coach. Quoi.
C'est facile de trouver des bénévoles.
Oui, c'est facile dans le sens où il y a eu une très grande mobilisation. On est même un peu surpris de cette mobilisation avec actuellement dans les listes environ 55 personnes qui se sont annoncées volontaires pour 1, 2, 3, 4 jours. Et à la journée de formation, sur ces 55, plus de 30 étaient présents. Donc c'est un succès incroyable et on voit là l'importance de ce jumelage, l'importance des journées à ski, parce que c'est les parents qui ne sont pas seulement en position de déléguer ça à l'école, mais ils mouillent leur propre chemise, ils fartent leur propre ski pour que ça ait lieu.
Bon, c'est vrai que vu les températures actuelles, peut-être bien qu'ils vont effectivement mouiller leur chemise sur les pistes de ski, parce qu'il fera 26 degrés d'ici la crème solaire. Du mois de février. Alors, les élèves des écoles s'inscrivent selon leur niveau. Là, on a des jeunes des jeunes Saint-Mauriciens qui vont arriver. On ne connaît pas leur niveau. Comment ça s'organise pour les intégrer et les faire monter à la neige et faire en sorte qu'ils puissent un peu skier ou en tout cas découvrir cette discipline ?
Alors c'est une opération qu'il ne faut pas négliger. Ceci dit, c'est un peu le quotidien de plein d'écoles de ski, de prendre en charge des enfants qui n'ont jamais skié. Alors effectivement, sur les 18, 15 se disent non-skieurs, donc n'ont jamais pratiqué le ski. Ou sont très débutants, donc c'est un certain défi. Et puis maintenant, comme n'importe quelle personne qui découvre le ski, ils auront leur matériel loué, ils vont arriver dans la cuvette, ils auront
mal aux pieds.
Ils auront mal aux pieds, peut-être un petit peu, parce que ça fait un peu partie du ski, il faut quand même le dire. Et puis on les initiera et je gage qu'à la fin de la semaine, à minima, ils tourneront en chasse-neige et puis ils pourront avoir du plaisir, ça c'est sûr.
Donc c'est 18 jeunes qui viennent.
C'est 18 jeunes de Saint-Maurice-Val-de-Marne, oui.
C'est un peu la moyenne. C'est un peu la moyenne, Evelyne.
On a eu jusqu'à 24. On a eu bloqué à 24. On a eu des années, quand il y avait eu des événements après, quand il y a eu l'attentat, on a eu une année où il y en avait 14. Il avait fallu aller les rechercher. C'est une bonne moyenne de reprise. On s'est fixé ce maximum de 24 pour des questions d'organisation. Et puis, on est assez content de voir ce qui se passe. Ça fera quand même 36 chaussures de ski. Parce que moi, c'est vrai que déjà, le concept pour eux de mettre les chaussures de ski du pied droit au pied droit, de crocher leurs chaussures, de faire le trajet entre la maison de son correspondant jusqu'à l'école ou jusqu'au car, le cas échéant, pour eux, c'est déjà un grand sport. Et renlever les chaussures le soir, c'est encore un autre sport. Et toutes ces étapes, elles sont nécessaire et c'est les souvenirs du jumelage qui restent ancrés jusqu'au bout des orteils.
D'autant plus pour le ou la chanceuse qui sera logée sur les hauts de Saint-Maurice. Hein, c'est comme on va, les jeunes vont chez dans des familles.
Alors, ils vont même sur les hauts de la
Du haut de haut.
Du haut de haut, puisque cette année, je crois, depuis la première fois, depuis bien longtemps, on a un jeune qui sera logé à Morcle. Et nous sommes certains qu'au moment où il va déjà arriver à Saint-Maurice, il sera impressionné par les montagnes. Et quand on va lui dire, tu vois, toi, tu vas aller habiter tout là-haut, ça sera encore un peu plus impressionnant pour lui. Il nous parlera certainement le lendemain de
la route.
Des nombreux contours de la route.
Il va plus parler de la route que des chemins.
Voilà, peut-être.
Alors, après cette belle découverte de la neige, ben, on a le retour de Manivelle, si vous voulez, le retour de la navette. Ce sera nos jeunes d'ici qui vont partir ensuite cet été en France.
Après la fin des écoles, jusqu'à présent, ils partaient directement le samedi. Là, comme le séjour est raccourci, ils auront un week-end pour se remettre des émotions de la clôture et ils partiront le lundi. Ce sera le 26 juin et aussi pour un séjour de 9 jours, ils reviennent le 4 juillet.
Alors, pour le programme en France, qu'est-ce qui se passe pour leur voyage là-bas? C'est l'organisation est laissée dans les mains des gens de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne?
Oui, c'est cela. On leur remet le bébé, le pack complet. Il y aura deux personnes de chez nous qui accompagnent le groupe, mais qui ont le rôle d'accompagnant. Et à eux de mettre sur pied leur programme qui, pour la première fois, sera uniquement centré sur la visite de Paris et des environs.
Pas de colonie de vacances au bord de la mer.
Pas de séjour au bord de la mer. C'était un petit peu difficile d'insérer les deux dans ces 9 jours. Et puis, au départ, l'idée, c'était effectivement que nos enfants découvrent la mer, ce qu'ils n'avaient jamais certainement vu. En tout cas, pour ma part, quand j'ai fait le jumelage, c'était la première fois où je partais à la mer, ce qui n'est plus le cas actuellement avec les nouvelles habitudes de voyage des familles. Il y a plus cette découverte de la mer qui était chère au cœur des premiers jumelés. Donc, la visite de la ville, puisque Paris est de nouveau ouverte au groupe, ce qui n'avait plus été le cas depuis 9 ans maintenant, où avec les plans Vigipirate, c'était interdit de se rendre en groupe pour visiter Paris.
Laurent, vous jouez un rôle aussi dans ce départ en France et dans le peut-être de s'assurer que tout est bien organisé, ou là, c'est plutôt laissé dans les mains de la conseillère municipale ou de l'administration?
Non, moi je joue un rôle parce que sur le plan opérationnel à la commune, le jumelage est marge au service de la formation et de la jeunesse. Donc évidemment qu'il s'agit de s'assurer de tout ce qui est de la préparation et de la formation, du contact opérationnel avec mon homologue dans le Val-de-Marne qui s'appelle Dabia Elouardi. Et avec ces collaborations, nous, on peut proposer un voyage qui tienne la route, bien encadré. En revanche, le programme sur place, on ne prend pas influence sur ce programme. Ça, c'est vraiment les Français, de la même manière qu'eux ne nous imposent pas où on va skier.
Ou Morcle.
Ou Morcle. Ou Morcle.
Ou Morcle.
Combien vont aller en France?
20.
Je voulais parler d'un autre sujet. Alors, c'est vrai que ce sujet du jumelage est très vaste. Je voulais parler d'un autre sujet, une belle action qui a été réalisée par les écoliers de Saint-Maurice. Il y a une course qui a été organisée avec une récolte de dons. Je crois que ça s'est passé hier à la salle de gymnastique avec une remise de chèques. Laurent, peut-être, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que ça a été cette démarche? C'était quoi, une marche, une course?
Bien entendu, oui. Alors, c'est quelque chose qui était déjà historique parce que ça s'était déjà fait du temps de mon prédécesseur Samuel Darbelay. Le concept était que chaque enfant de l'école allait pendant une après-midi marcher sur la piste finlandaise ou courir pour les plus aguerris, accumuler des tours qui étaient sponsorisés par des parents, des amis, etc. Ceci a été réalisé au profit de deux associations, une très locale qui sont les Colis du Cœur de Saint-Maurice et une plus romande qui est l'ARFEC, une association qui soutient les familles qui ont un enfant atteint d'un cancer. En l'espace de 2 périodes, les enfants ont réussi à accumuler la somme de 28 000 francs. ce qui est énorme, ouais. Ce qui est énorme, et ce qui a permis de livrer, de verser quasiment 14 000 francs avant Noël à chacune de ces associations. Elles avaient justement besoin de cet argent à cette période-là. Et nous avons fait, c'était pas hier, c'était aujourd'hui, juste avant, une remise.
Ah oui, c'est aujourd'hui.
Une remise de chèques formels devant tous les enfants, les enseignants, pour marquer le coup.
Evelyne, donc au-delà des écoles, le jumelage, c'est aussi une institution politique à Saint-Maurice. Il y a des liens fréquents avec les autorités de Saint-Maurice, Val-de-Marne ?
Sur le long de l'année, oui, on a plusieurs occasions de se rencontrer, que ce soit à la période du jumelage maintenant. On a eu participé de part et d'autre à la tournée des vœux quand il y avait un anniversaire particulier. On se voit aussi lors de la Saint-Maurice, où on a une délégation qui vient nous trouver pour... La messe pour la procession et les festivités qui s'en suivent. Bah, depuis quelques années, c'est le marché monastique qui tient lieu de
échanges plutôt festifs qu'institutionnels, dans le sens où vous échangez des expériences, des choses comme ça.
Oui. Oui, oui, clairement, c'est...
L'amitié.
C'est l'amitié.
C'est l'image des grands. Après, il y a le retour. Hein. Il y a aussi la Saint-Maurice, le week-end suivant.
Le week-end suivant, on descend avec une délégation et puis quelqu'un de l'abbaye qui donnera la messe sur place. Mais c'est aussi effectivement des rencontres avec aussi les autres villes jumelées de part et d'autre, puisqu'on a tous plusieurs partenaires de jumelage. Donc, ça ouvre vraiment à... lieu à de belles discussions, rencontres, échanges et belles découvertes festives de part et d'autre. On a aussi, bien sûr, nos échanges un peu plus sérieux ce qui concerne notre manière de fonctionner, qui est complètement différente entre la France et la Suisse. C'est vraiment pas pareil et puis c'est assez enrichissant cet échange-là.
On pourra en parler tout à l'heure puisqu'on va recevoir les deux adjoints au maire donc en France, hein, les conseillers municipaux, ce qu'on appelle en Suisse, ce sont les adjoints au maire. Ils sont plusieurs. Alors il y a l'échange des enfants, ça marche. Il y a l'échange des politiciens, ça marche. Laurent, bientôt l'échange des professeurs.
C'est un petit rêve. C'est un petit rêve que je caresse parce que c'est une boutade, mais qui
des fois les boutades.
Ouais, c'est une boutade très intéressante parce qu'effectivement. Effectivement, il y aurait énormément à retirer d'échanges professionnels qui sont assez difficiles à organiser institutionnellement. J'avais essayé avec l'Allemagne à l'époque, c'est assez délicat. En revanche, il y a d'autres créneaux intéressants. Par exemple, j'ai régulièrement des FaceTime avec mon homologue, la directrice de l'école qui a des enfants qui correspondent à l'âge des nôtres, avec ma propre classe. Et puis, on est en train de mettre en place d'autres choses plus concrètes, plus opérationnelles. Mais c'est vrai qu'un échange d'enseignants serait très profitable.
Alors, on verra si on vous recevra à nouveau ces prochaines années pour parler de cet échange d'enseignants. Merci Laurent, merci Evelyne de nous avoir rendu visite.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On vous souhaite une très bonne soirée. Vous êtes toujours sur Agone Radio, c'est toujours jeudredi. On parle politique, on parlait jumelage du côté suisse. On va parler maintenant du jumelage côté France. Nous allons tout soudain faire un duplex pour joindre deux personnes. Je vous les présente. Philippe. Ah, ça sonne. Alors on va voir s'il décroche.
Allô.
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 Est-ce qu'on s'entend? C'est Fabien, Agone Radio, au téléphone. Oui. Bonjour, on est en direct sur Agone Radio, on est content de vous retrouver. Je fais vite les présentations pour qu'on sache avec qui on est au téléphone. Hein. On a Philippe Bourdageau, premier maire adjoint, la petite explication. Le premier maire adjoint, c'est l'équivalent du vice-président de la municipalité, comme on avait Evelyne Seyen tout à l'heure, qui est chargé des bâtiments, de la vie scolaire, de la jeunesse et du jumelage. Et puis Cédric Damien, septième adjoint au maire. Un conseiller municipal en langage suisse, donc, qui est chargé des relations sociales, de la vie associative, du numérique et des affaires générales. Bonsoir, vous deux.
Bonsoir, Fabien.
Première question, il fait quel temps à Paris ?
Ben, il a fait beau aujourd'hui. Hein, oui. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a fait beau. Il fait plutôt chaud, on doit être à...
On n'a pas de neige.
Ouais, ici, elle commence à fondre aussi puisqu'il fait assez beau. On est à quelques jours de la visite des Mauriciens, de la visite des Saint-Mauriciens au Saint-Mauriard. On parlait avec Evelyne Sayen tout à l'heure des changements qu'il y a eu du côté suisse avec l'arrivée d'un nouveau chef de service, etc. De votre côté, est-ce que ça a une influence dans la manière de préparer cet échange ?
Bah écoute, il n'y a pas de modification. En fait, on a été très heureux pendant de nombreuses années, que ce soit Maristella, qui pilote au niveau de l'administration suisse, qui pilote ce jumelage. Aujourd'hui, nous sommes également très heureux que ce soit Laurent. On a pu rencontrer Laurent lors de la Saint-Maurice 2022 et Laurent nous a fait une excellente attention. Il a fait une excellente attention également aux enseignants et on est très heureux. En tout cas, nous, on est toujours très très heureux que ce jumelage perdure depuis 1957. C'est pas forcément évident, donc je vais passer la parole à Cédric, parce que sinon je vais parler de...
L'égalité. Vous êtes heureux, on imagine qu'il y en a qui sont encore plus heureux, c'est les enfants qui se préparent à partir, là.
Oui, alors, on confirme, il y a un gros enthousiasme de la part des enfants. On a eu une petite réunion préparatoire et on tient à remercier notamment Davia et Cynthia pour la préparation. Gros enthousiasme des enfants, beaucoup de questions et puis il faut avouer les choses, ils ont hâte d'arriver chez vous. Voilà.
Pour vous dire,
il y a quelques jours, ils sont venus récupérer leur équipement. Les enfants, quelques-uns ont l'habitude d'aller à la neige, mais certains n'ont jamais vu la neige, certains vont découvrir. Et en fait, on leur met à disposition un équipement de ski. Quand je dis équipement de ski, c'est les vêtements qui leur permettent, les manchots qui vont leur permettre de faire du ski. Voilà. Donc, ils sont tous venus récupérer leur matériel. Il y a quelques jours.
Voilà, de l'équipement chaud. Après, c'est vrai qu'ici, sur place, ils recevront des skis, des bâtons et tout ça. Alors, Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, c'est une ville un petit peu plus grande que la nôtre. On imagine qu'il y a plus d'élèves aussi. Comment on fait pour j'ose pas dire sélectionner, mais pour choisir ou pour trouver les jeunes qui partiront en Suisse?
Et alors, si tu veux, le jumelage chez vous, alors, à la petite différence, c'est qu'effectivement, nous sommes une ville plus grande en termes de population, puisque Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, a 14 000, un peu plus de 14 000 habitants. Mais le jumelage est beaucoup plus difficile à faire vivre que chez vous. Alors, c'est vrai, quand on est chez vous, moi, j'ai l'habitude de rencontrer des gens qui ont vécu les premiers jumelages, hein, des gens qui n'ont pas loin maintenant de 80 ans. Hein. Chez nous, on est en proche banlieue de Paris, on est limitrophe de Paris. Les gens bougent beaucoup plus, déménagent, arrivent. Et trouver des gens qui ont fait le jumelage chez nous, à Saint-Maurice-du-Val-de-Marne, les premiers jumelages, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a un travail beaucoup plus important pour mobiliser, nous. C'est sur la base du volontariat, hein, mais on a un travail à faire auprès des familles, notamment d'Abia. D'Abia qui est à côté de nous, hein, elle vous écoute, là.
Bonsoir.
Ça vient un peu tour des écoles il y a un ou deux mois hein, pour sensibiliser les enfants au jumelage. Alors, quand ils ont découvert le jumelage, ils sont extrêmement enthousiastes, extrêmement heureux. Mais c'est vrai qu'on a ce travail à faire de pédagogie, de sensibilisation au jumelage. Alors, nous, on est des convaincus, on est des gens. On est en plein dedans, hein. on va pas dire qu'on est né dans
la marmite.
Non, comme Obélix d'ailleurs, c'est le thème de ces jours. Moi, j'ai peut-être une question là. C'est alors bien sûr qu'il y a cette visite en Suisse, l'appareil qui vient cet été. Vous accueillez les petits Suisses, hein, comme on dit. Qu'est-ce que vous leur préparez comme programme à ces visiteurs des montagnes?
Comme tout à l'heure, on a écouté un peu l'émission avant le format est un peu raccourci. On a effectivement, ça correspond plus peut-être, je dirais, à la vie d'aujourd'hui. Nous avions l'habitude d'emmener les enfants au bord de la mer, mais c'est vrai que en Suisse aujourd'hui, même les enfants suisses connaissent, beaucoup d'enfants suisses connaissent la mer, donc on a décidé avec Élie, qui est la pilote depuis plusieurs années du jumelage au Suisse, on a décidé effectivement d'emmener les enfants à Paris ou dans les environs de Paris. C'est-à-dire que on avait un problème depuis 2015 notamment. C'était après les attentats, on était en France, on était dans un processus qui s'appelle Vigipirate, Vigipirate rouge, hein, c'est-à-dire qui nous interdisait quasiment d'emmener les enfants dans Paris. Maintenant, 2015, ça fait quasiment 8 ans hein, que 2015 est passé. Je dirais que ça s'est un peu assoupli et on s'est dit que c'est vrai que faire venir des enfants de Saint-Maurice d'Agaune juste à côté de Paris, puisqu'on est limitrophe, ça en touche Paris par le bois de Vincennes, c'est quand même un peu bête de ne pas les emmener, de ne pas leur faire visiter la capitale française qui est l'enveloppe de choses très très intéressantes. Donc là, on n'a pas tout à fait finalisé les choses. Effectivement, on n'a pas encore finalisé les choses. On va pas vous réveiller le programme pour garder le mystère, bien
un
entendu.
Un petit peu de mystère, hein. Bien sûr, c'est important.
Mais sachez qu'effectivement, ce sera un programme qui sera à la hauteur des attentes des enfants, mais également des familles suisses. Et on remercie à nouveau Evelyne et Laurent pour l'investissement pour faire revivre ce jumelage où on a eu quand même deux, trois années difficiles à cause de la Covid, mais ça, ça va être très bien avec les bons souvenirs qu'on va pouvoir créer.
Question d'actualité pratique, donc il y a le transport dans quelques jours pour venir en Suisse, mais il y a aussi des risques de grève. Est-ce que vous avez un plan B? Question d'actualité quand même. Aussi pour les Suisses quand ils viendront à Paris, on ne sait pas si ces grèves seront... enfin, il y aura une solution trouvée.
Alors, si tu veux, on trouve toujours des solutions. Et alors là, c'est vraiment pas le problème. D'ailleurs, il ne va pas être très très loin. Je me souviens qu'il y a quelques années, vous avez appris avec les questions de Paris. Au moment d'une grève, on a répondu présent en Suisse. Et bien sûr qu'on fera tout ce qu'il faut pour que les enfants puissent arriver à Saint-Maurice-la-Gaule. On s'est dit qu'on les mettrait peut-être sur les deux pour les emmener moi-même. C'est une blague. On prendra un bus et on les amènera en transport en bus. Il n'y a pas de souci. Le village se fera. La seule... Ce qui est malheureux, c'est que la seule interruption des rencontres des enfants entre nos deux villes, ça a été le Covid. C'est la seule fois depuis 66 ans, qu'il y a eu la c'est le Covid. Mais là, je dirais les aspects logistiques sont un
Le jumelage n'a donc peur de rien. On arrive déjà, hélas, ça passe vite le temps à la fin de cette interview. Merci d'avoir été avec nous en direct de Saint-Maurice. On attend donc ces enfants avec impatience et puis on se réjouit de vous retrouver lors de la prochaine fête de la Saint-Maurice. Bonne soirée.
On se réjouit également. Bonne soirée. À bientôt.
Merci, au revoir. Un grand merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, Jeudredi fera relâche. Et oui, on a le droit de se remettre du carnaval auquel nous vous donnons rendez-vous bien sûr dès ce soir et on le rappelle jusqu'à lundi. On se retrouve donc le jeudi 2 mars. Merci à nos invités du jour. Il y avait, je prends ma respiration parce qu'ils étaient nombreux, Lila Niklaus, Enzo Fay, Bruna Langel, Yasmina Cordonnier, Evelyne Sayen, Laurent Husson, Philippe Bourdageau et Cédric Damien. N'oubliez pas vos remarques, vos suggestions, c'est par mail à l'adresse info@agoneradio.ch ou par message WhatsApp au 079 150 1890. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Restez connectés, écoutez-nous sur Internet et sur le DAB+. Bonne suite de Jeudredi soir à toutes et à tous. Bon apéro, bon carnaval et rendez-vous dans 2 semaines.
Jeudredi, Fabien Lafarge, Victor Glacet, 17h30, 18h30, en direct sur Agone Radio.